grandis trop vite. Quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et un poli barrage. Car impossible, cette paix t'a voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde a Colombé parti? La rage d'être autant balafré par les pécans des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. J'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir dorénavant. On tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur parfois. On restera debout quoi qu'il arrive. J'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales et belles, tout équilibre fout le camp. La rage car irréparable, fantasme depuis un bout de temps. Debout, il faut que le bouc la rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car croulisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On restera debout quoi qu'il arrive. J'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur parfois. On restera debout quoi qu'il arrive. J'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire.
Bienvenue à une nouvelle édition de La Rage du Peuple, animée par des membres du collectif anarchiste du 19 juillet à Sherbrooke. Cette émission-ci va être remplie, on va avoir plusieurs interventions. Premièrement, bientôt, plutôt que de faire l'actualité comme on le fait régulièrement, on va recevoir M. Phil Pott, qui a été invité par le CREMI. Donc, M. Phil Pott va venir nous parler de son livre sur Power Corporation, qui est une... qui est un magna, qui est une organisation de la finance qui contrôle beaucoup, beaucoup de médias. Donc, il va venir nous parler de comment est-ce que ça influence les médias. Par la suite, on va recevoir Lorraine Gay en entrevue. Lorraine Gay est porte-parole de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine. On va parler, entre autres, de l'accord bilatéral entre l'Israël et le Québec, un accord bilatéral en économie. Et par la suite, on va recevoir Alexis Baudet et Virginie Duceppe qui organisent une soirée sur les Autochtones et leur histoire. Donc, on vous souhaite une bonne émission.
Babacool Craddock est sorti de son bus Volkswagen qu'il avait garé comme une loque devant mon rad. J'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade, patchouli, patogas, le guide du routard dans la poche. Hare Krishna à mort, cheveux ouénés, oreilles percées. Tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles pour se barrer à Katmandou au Népal. Avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Bourgeoise bêcheuse maquillée comme un carré d'as a débarqué dans mon gastos un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flip, reluque la tronche à la pouviasse, fils la culasse et les nibards. Collant léopard homologué chez SPA, Monoï et Chalimard. Putain en sky comme Travolta, qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête? Non mais S3 au palace, je peux pas saquer les starlettes ni les blondasses. Avant qu'elle ait bu son cognac, je l'ai chopé par le callback. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues et et marche à l'ombre. Un petit Rocky Barjo, le genre qui s'est gouré de trottoir, est venu jouer les Marlon Brando dans mon saloon. J'ai dit à Bob qu'avait fait tilt, arrête j'ai peur, c'est un blouson noir, je veux pas d'histoire avec ce clown. Derrière ses pauvres ébans, je vois pas ses yeux et ça m'énerve. Si ça se trouve, il me regarde, faut qu'il arrête, sinon je le crève. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient user mon comptoir? La carte tournée chez les Grecs, se faire voir. Avant qu'il ait bu son viandox, j'ai chopé contre le jukebox. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Je me suis fait un punk qui avait pas oublié d'être moche. Bien intellectuel en l'Odène, genre nouvelle ops. Quand Bob a massacré le flipper, on n'avait plus une thune en poche. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF. Et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête. Si ce mec là me fait la peau et que je crève la gueule sous le comptoir. Si la mort me paye l'apéro d'un air vicelard. Avant qu'elle m'emmène voir là-haut, s'il y a du monde dans les bistrots, tu dirais, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre.
Yeah. CFLX FM
95,5 CFLX.qc.ca.
On va faire un petit tour en actualité, puisque semblerait-il que ça va être à 17h que notre invité, M. Phil Pott, va venir accompagné de M. Francis Poulain du CREMI. Jusqu'à 16h30, nous allons donc discuter actualité. Avant de revenir sur les événements de dimanche dernier, du COBP, la manifestation contre la brutalité policière, je veux simplement faire un tour rapidement sur le contenu du journal Entrée libre, journal communautaire de Sherbrooke, sur un article qui est assez intéressant, qui a été écrit par le collectif pour le libre choix, par Pascal Camillat. Ça parle des relents de droite sur les ondes à Québec, tout plus particulièrement au 93.3. Donc, Sylvain Bouchard, qui est le successeur de Jeff Filion à cette station-là, du 26 au 29, a martelé le message qu'une photo de Françoise David paraît dans le manuel scolaire du cours d'éthique et de culture religieuse des étudiants et des étudiantes du 4e secondaire. Il disait que c'était de la propagande pour Québec solidaire. Il incitait les gens à arracher cette surtout les jeunes, en fait. Il incitait les jeunes à arracher cette page. Et en fait, ça donnait lieu à un concours déchiré de la face de Françoise David. La gagnante recevrait un prix, un jouet électronique nommé Guitar Hero. Donc, dans le fond, les propos de Bouchard, laissaient sous-entendre la photo de Françoise David avait lieu dans le cadre d'une publicité pour Québec solidaire. Mais c'était plutôt c'était un chapitre sur le féminisme. En fait, dans le fond, c'est un chapitre qui parle aussi des événements de la Polytechnique, de la situation des adolescentes dans les banlieues françaises. Un chapitre qui présente à la fin la Charte mondiale des femmes pour l'humanité. Donc, non seulement par ce discours-là, il mettait de côté le contenu, puis en s'indignant d'un discours de gauche politique dans les manuels scolaires, mais en même temps, il mettait de côté le rôle de Françoise David ailleurs que dans Québec solidaire, donc plus dans son implication féministe at large. Donc, ce qui est drôle, c'est que il y a eu une personne qui a gagné, c'est un gars qui a dit aux médias qu'il adorait son cours et qu'il ne se sentait pas vraiment brainwashé. Il a déchiré la page, mais il a juste fait ça pour gagner le prix. Donc, c'est vraiment amusant de voir comment est-ce que il a été, dans le fond, indifférent aux propos démagogues de Bouchard. Mais peu importe ce qu'ils disent à CJMF 93.3, je pense que c'est une belle radio de démagos à Québec. Donc, nos camarades de Québec font des chroniques tous les mercredis à leur émission sur les commentaires réactionnaires, en fait. Tous les animateurs de radio qui disent des choses qui n'ont pas d'allure. Donc, on vous invite à aller sur le site de voixdefait.blogspot.com, voix comme dans VOIX, DEFAITS, pour aller écouter cette émission-là. Ça s'appelle aussi l'émission Voix de fait. Donc, c'est animé par le collectif Anarchistes de la nuit. Vous allez pouvoir entendre plein d'autres belles choses qui sortent des ondes à Québec, la ville lumière.
Si seulement. On pourrait peut-être continuer en restant dans l'actualité puis en faisant le tour des blogs qui sont affiliés à la NEFAC, en fait à l'UCL désormais. Puis on va commencer avec le blog justement de Voix de fait, qui est le collectif de Québec, avec une nouvelle concernant la manifestation qui avait lieu à Montebello contre le PSP, mm-hmm. le Partenariat pour la santé et la prospérité.
Qui est un peu comme un sommet des Amériques, mais...
Entre les trois pays d'Amérique du Nord.
Oui, c'est ça. Plus spécifiquement sur la sécurité, dans le fond aussi.
Oui, puis en fait, c'est davantage sur la répression que la sécurité, mais bon... on se souvient qu'il y avait deux policiers qui avaient été identifiés par les manifestants, puis que ça avait créé un mini-tollé du genre « des policiers incitent les manifestations à commettre des gestes illégaux ». ». Ce qu'on apprend plus tard, c'est que grâce à la loi sur l'accès à l'information, c'est plus de 26 agents qui étaient infiltrés dans cette manifestation-là. Donc, on se demande, bien sûr, ils voulaient collecter des informations sur les militants pour empêcher leur travail par la suite, en apprendre un peu plus sur eux. Mais c'est aussi un travail aussi agréable que lancer des roches sur les policiers puis inciter les autres à le faire pour plus facilement, comment dire, arrêter les manifestants.
Ouais, pour juste donner une excuse à réprimer la manifestation, dans le fond.
Oui, donc il faut toujours faire attention dans les manifestations quand il y a des gens qui s'en prennent violemment à d'autres ou à la propriété privée. C'est pas nécessairement des radicaux, c'est peut-être même des policiers qui sont grassement payés pour faire ça. Et puis, compliquer le travail des militants, bien entendu. Puis, on va faire tout ça pour faire un lien avec la manifestation qui avait lieu dimanche dernier, le 15 mars, la 13e journée internationale contre la brutalité policière qui a été échauffé beaucoup d'esprit à Montréal. Moi, j'y étais, j'ai été étonné qu'il y ait eu autant de répercussions médiatiques alors que c'était une des moins pires manifestations du COBP qui a eu lieu jusqu'ici. Je ne tiens pas à excuser les gestes qui ont été commis de la part de, pour l'essentiel, des jeunes marginaux ou d'autres en manque de sensations fortes, qui s'en sont pris à des cibles non symboliques ou plutôt ordinaires. Mais je tiens à préciser que j'ai été aidé le départ de la manifestation. Les policiers ont tout fait pour provoquer les manifestants, alors qu'ils savaient pertinemment que ceux-ci en avaient quelque chose contre eux. Je me souviens, le métro Mont-Royal était cerné par les policiers qui...
Ils ont arrêté systématiquement toutes les gens qui avaient des drapeaux.
Oui, oui. D'ailleurs, on n'a plus le droit d'amener des drapeaux dans les manifestations ou quoi que ce soit.
C'est rendu une loi?
Ben, c'est pas une loi, mais les policiers en ont profité pour arrêter beaucoup de gens.
Okay.
Puis, même certains de nos camarades se sont fait arrêter. Je tiens à préciser que, heureusement, aucune contravention sera payée parce que, si on se souvient, il y a justement 275 arrestations qui avaient lieu quelques années plus tôt, dont aucune contravention qui a été payée parce que les accusations sont tombées. Donc, on se demande si le travail de policier, finalement, c'est pas juste d'arrêter des gens, les mettre dans des positions inconfortables plusieurs heures, les faire passer une nuit en prison, leur donner une contravention, puis aussitôt qu'on conteste cette contravention-là, les accusations tombent. Pourquoi? Parce que les policiers n'avaient pas vraiment de raison d'arrêter ces gens-là, outre que la situation exigeait que les policiers freinent au maximum ce mouvement-là. Ils n'aiment pas vraiment la critique. T'sais, toute question qui termine par un point d'interrogation, les policiers n'aiment pas ça. Hein? Questionner l'autorité, pas à Montréal, puis encore moins à Sherbrooke, j'ai l'impression. On se souvient d'ailleurs qu'il y avait une manifestation contre la brutalité policière à Sherbrooke. L'anti-émeute, bien sûr, sans aucune raison, en avait profité pour scinder la manifestation en deux, faire plusieurs arrestations. Puis c'est quoi le bilan des arrestations? Aucune accusation
de
portée?
Il n'y a pas eu de charge qui a été retenue, en fait. Des 8 personnes qui ont été arrêtées, on part sur un autre sujet, là.
Ouais.
On parle présentement de la manifestation contre la brutalité policière à Montréal, donc qui a eu lieu dimanche dernier. Donc, il y a eu 200 personnes qui se sont faites arrêter et c'est 17 personnes qui sont restées emprisonnées puisqu'il y avait eu des problèmes judiciaires. Donc, comme tu le disais précédemment, Guillaume, il y a une stratégie qu'on a vue aux États-Unis, entre autres, qui consiste à arrêter des gens, les envoyer dans une zone de contrôle. Donc, ça permet à diminuer, surtout quand que ces arrestations-là sont ciblées, ça permet de diminuer les risques qu'il y ait des discours ou simplement ce que la police craint dans ces actions-là. J'ai l'impression c'est que ça prenne une toute autre teneur. Puis, je pense que ça favorise... Le fait qu'ils mettent l'emphase sur la répression, ça favorise aussi l'évacuation du message. Comme
tout
par exemple, j'ai lu dans la presse un chroniqueur bidon, dont je ne me rappelle plus le nom malheureusement, qui parlait, qui avait fait un texte assez mauvais sur le fait qu'il y ait eu la distribution des drapeaux rouges. Il disait que c'était un peu des anticapitalistes révolutionnaires, mais qu'ils s'attaquaient à des pizzerias. Mais dans le fond, c'est vraiment un problème de vision de la manifestation, puisque le contenu du message, en fait, le message, c'était vraiment de dénoncer le meurtre de Freddy Villanueva. Il y a eu aussi 300 personnes qui sont mortes suite à l'utilisation du taser gun, le pistolet électrochoc. Donc, 300 personnes en Amérique du Nord qui sont mortes depuis son instauration en 2001. Donc, ça fait beaucoup de personnes. Donc ce qu'on peut voir dans les journaux, comme particulièrement à Montréal, dans le journal de Montréal, il y avait dressé le portrait d'un manifestant typique, un peu look punk, donc avec un gros titre par-dessus, les marginaux gonflés à bloc. Donc, je pense que cette année, d'autant plus qu'il y a eu une surenchère par rapport aux années dernières, comme il y a eu plus de violence l'année dernière, mais ils en ont moins parlé. Je pense que ça fait aussi peut-être partie de la nouvelle stratégie
de la police,
puisqu'on sait que cette année, il y avait des policiers puis probablement aussi des policières de Toronto qui ont été dépêchées pour venir donner un coup de main, mais aussi pour
se former,
observer, être des observateurs, puisqu'ils essayaient des nouvelles tactiques. Or, c'est la première année, à ma connaissance, qui arrête systématiquement les personnes qui portent des drapeaux, tout simplement parce qu'ils veulent empêcher l'utilisation du bâton qu'il y a après. Et ils disent avoir arrêté les gens avant la manifestation puisqu'ils portaient des armes qui auraient pu être utilisées. Mais en même temps, porter un drapeau, c'est
un symbole.
Ça laisse à confusion. Puis comme tu disais précédemment, ben les 200 sur 200 personnes environ qui ont été arrêtées le jour, c'est 17 qui sont restées plus tard que la soirée. Donc, ça fait 183 personnes qui se sont faites libérer.
Je tiens à dire aussi que c'est pas la première fois. Depuis les années 2000, l'ONU a averti à de nombreuses reprises la ville de Montréal que le service de police de la ville de Montréal faisait des arrestations qui étaient illégitimes et illégales dans la mesure où c'est des arrestations de masse. En quoi ça consiste? Bien, c'est simple. Dans une manifestation, tu fous le bordel en tant que policier. Puis, tu arrêtes 200, 300 personnes, 400 personnes. Tu leur donnes des contraventions pour des sujets bidons, tu sais, troubles de la paix publique ou encore bris ou des trucs comme ça. Si tu n'as pas besoin à te légitimer, mais seulement aussitôt que ces personnes-là vont contester leur contravention, il n'y a aucune accusation qui est portée parce qu'il n'y a pas de preuves. Puis, c'est spécifiquement ce que l'ONU dénonce. Puis là, le service de police de Montréal nous en a fait la preuve une fois de plus hier qu'ils vont continuer de faire des arrestations de masse. Puis on se demande, c'est justement ça qu'on dénonce, la stratégie policière qui est totalement stupide. Puis j'ai comme l'impression aussi que le fait que leurs camarades de Toronto étaient là, ils en ont profité pour, ils ne voulaient pas, comme disons, perdre une belle occasion d'en montrer aux voisins de l'Ontario. Fait que je crois que de la provocation allait venir dimanche dernier des deux côtés. Puis c'est ce que j'ai observé. Il y avait beaucoup de flicailles qui s'énervaient, qui parcouraient toutes les rues, qui souhaitaient à tout prix mettre fin à la manifestation. Mais le meilleur moyen, de faire des bris chez les manifestants, c'est d'empêcher 2000 personnes de manifester. Je veux dire, si tu laisses les gens manifester pendant 2 heures, la plupart, dans les manifestations, ce qui arrive, c'est que la plupart des gens partent tout au long de la manifestation. Il reste de moins en moins de personnes, de moins en moins de heures lorsque la manifestation va se terminer. Mais là, ce qui s'est passé, c'est le contraire. Dès le départ, les policiers ont voulu arrêter cette manifestation-là alors qu'il y avait 2000 personnes. C'est beaucoup plus difficile de contrôler 2000 personnes qu'une centaine de marginaux à la fin d'une manifestation.
Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est... C'est une chroniqueur de la presse qui s'est faite plaquer au sol par un anti-émeute, par un agent de contrôle de foule, comme le service de police dit. Et aussi, cette personne-là qui s'est faite plaquer au sol qualifiait les personnes présentes cette journée-là d'anarchistes. Donc, je trouvais ça intéressant de souligner ce fait-là. Si le réactionnaire, je l'appelle comme ça, si un des chroniqueurs bidons de la presse s'est insurgé contre la distribution des drapeaux rouges, qui est un journal communiste maoïste, durant la manifestation contre le COBP, ben il y a aussi la perspective que les gens qui vont manifester contre la brutalité policière, c'est des anarchistes. Mais on peut se poser la question à quel point est-ce qu'on fait le lien entre être anarchiste et aussi être simplement révolté et agressif. Du moins, c'était dans cette perspective-là que cette chroniqueur-là utilisait le terme anarchiste.
Puis il y avait énormément de gens qui étaient là puis qui n'étaient pas forcément des anarchistes. Ça, c'est pas vrai, c'est ridicule. Il y avait une grande proportion de comment dire, il y avait une grande proportion de jeunes marginaux qui sont de toute manière les premières victimes du harcèlement policier. Puis eux, il est sans-abri. Puis, mais bref, on va s'arrêter ici pour ce qui est du COBP, puis on va aller faire une pause musicale et commerciale.
Tout de suite après, on va avoir Lauren Gay en entrevue de la Coalition pour la justice et paix en Palestine qui va nous parler de l'accord bilatéral économique entre le Québec et Israël.
Salut Oli, c'est quoi ça le collectif Recirque?
Ben, le collectif Recirque, c'est un nouvel OBNL qui promouvoit les arts du cirque. Si tu veux en savoir plus, t'es invité à l'Assemblée générale annuelle qui va avoir lieu mercredi le 18 mars à partir de 18h30. C'est à la Chaudronnée de l'Estrie, au 470 rue Bowen-Sud. Et puis pour les petits gourmands, il y aura un goûter. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à recirque@commercial.com.
Tu as du film au ventre, un impérieux besoin de tourner, de prendre trip? La course Estrie, voilà le remède à ton irrépressible envie de court-métrage. La course Estrie est l'occasion unique de réaliser tes films dans un cadre professionnel, d'ajouter une formation de l'INIS à ton CV, de remporter des prix pour l'excellence de tes œuvres et de voir tes films être télédiffusés et distribués au Québec et dans le monde. La course Estrie, une expérience exceptionnelle qui propulse une carrière à tout cinéaste qui a du film au ventre. Inscris-toi avant le 6 avril sur courseestrie.com.
Si vous avez des commentaires ou suggestions concernant notre programmation, contactez-nous par téléphone 819-566-2787 ou par courriel à l'adresse commentaires@cflx.qc.ca. Félix, 95,5 FM. La radio communautaire de l'Estrie.
Alors bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel est le toit, entre six mains et belle étoile.
C'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Et même cela, croyez-moi, on s'en occupe, il y a des foyers d'accueil parce que en hiver, en France aussi, il fait froid.
Ne recule plus. Le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 788 euros par mois. Elles sont près de 7 millions en France.
Un SDF handicapé a été condamné à 2 mois de prison ferme. Depuis des années, il prenait les transports en commun à Lyon sans payer.
Surtout, nos aveugles déplorent, c'est pas d'être hors d'état de se rincer l'œil creux, non, non, mais de ne plus pouvoir lorgner le drapeau tricolore. La ligne bleue des Vosges sera toujours notre horizon. Et les muets chez nous, ce qui les met mal à l'aise, c'est pas d'être hors d'état de compter fleurettes creux, non, non, mais de ne plus pouvoir reprendre en cœur la Marseillaise. Les chansons martiales sont les seules que nous entonnons.
On a eu un intermède d'une quinzaine de minutes. Question qu'on rentre en contact avec Lorraine Gay, qui est invitée aujourd'hui pour venir nous parler de la coalition pour la paix et la justice en Palestine. Bonjour, Madame Gay.
Bonjour.
Aujourd'hui, on aimerait ça savoir si, premièrement, vous pouvez nous expliquer quelle est l'histoire de la coalition à laquelle vous parlez aujourd'hui.
En fait, la coalition pour la justice et la paix en Palestine date d'au moins une dizaine d'années, si c'est pas davantage. Et dans le fond, elle a surgi, je dirais quasi naturellement, avec entre guillemets la détérioration de la situation en Palestine depuis des décennies et des décennies. Et plusieurs groupes, dont certains travaillaient de façon particulière et exclusive sur la question de la Palestine. Je pense en particulier au groupe Québec-Palestine à l'époque, fondé par Rezek Farah. Je pense aussi à Pajou, Palestiniens et Juifs unis, fondé également par Rezek Farah et Bruce Katz, Juifs et Palestiniens unis contre l'occupation, la colonisation, etc. Donc, des groupes comme ça et des groupes syndicaux et d'organismes communautaires. Je pense en particulier au Conseil central de Montréal, à la Fédération des femmes du Québec, à la COSI, à l'entraide missionnaire, etc. Donc, des groupes dont la mission n'est pas exclusivement, bien sûr, de travailler sur la question de la Palestine, mais qui ont des préoccupations sérieuses sur toute la question de la solidarité internationale, dont la question de la Palestine. Alors, je pense que dans toute situation aussi terrible que celle vécue par les Palestiniens à l'heure actuelle, les sociétés ou les pays dans lesquels on est chacun, on a vraiment une responsabilité très importante de mettre nos énergies ensemble pour faire le travail de solidarité, justement. Alors, en gros, c'est un peu l'origine, si on veut, puis la mission de cette coalition-là.
Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des activités que vous avez faites dernièrement? Est-ce que vous êtes activé lors du mois de janvier, lorsqu'il y a eu une attaque avec l'opération de plomb durci?
Oui, tout à fait. Bien, je dirais que une coalition, hein, la vie d'une coalition, c'est bien conjoncturel aussi d'une certaine façon, et c'est une coalition comme plusieurs d'ailleurs au Québec, comme le collectif Échec à la guerre pour ce qui est de la présence des troupes canadiennes en Afghanistan. C'est des coalitions qui fonctionnent avec l'huile de bras, hein, pour ressources, parce qu'il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a pas de ressources financières. Non, c'est uniquement des militants d'organismes qui mettent la main à la pâte. Alors, il y a des périodes d'intense activité et d'autres de plus grande latence, je dirais. Mais la coalition, je dirais, dans les 3-4 dernières années en particulier, parce que moi, j'ai pas été là tout le temps, évidemment, il y a eu bien des militants avant moi qui y étaient. Il y en aura après aussi, j'espère. Mais quand même, les deux dernières années, 2006-2007, 2007-2008 et maintenant, bien sûr, les événements de Gaza, la coalition quand même fait des manifestations importantes, en particulier au moment de... pas de la célébration, c'est pas le mot, c'est la commémoration du 40e anniversaire de l'occupation. 40 ans d'occupation des territoires palestiniens suite à la guerre de 67. Donc, il y a eu une manifestation importante, au-delà de 1000 personnes qui ont participé. L'année passée, c'était le 60e anniversaire de la naissance d'Israël, qui a été célébré partout à travers le monde. Mais nous, ce qu'on a plutôt commémoré, c'est la Nakba. La Nakba, en arabe, ça veut dire la grande catastrophe qu'a été la création de l'État d'Israël, parce que cette création-là s'est faite sur le nettoyage ethnique de la Palestine, le transfert ou la fuite de au-delà, tout près d'un million en fait de Palestiniens qui ont été chassés de leur maison, qui sont partis avec la clé dans la main, pensant y revenir dans les jours et les semaines qui allaient suivre cette opération-là des armées israéliennes. D'ailleurs, la manifestation s'est faite sous le signe de la clé. Chacun apportait une clé pour commémorer symboliquement cet événement-là. Et bien sûr, durant les terribles événements de Gaza, la coalition a organisé une manifestation le 10 mars, janvier dernier, où on était quand même au-delà de 10 000 personnes dans les rues de Montréal. Mais bon, la coalition n'a pas été la seule organisation qui a fait des manifestations. Le groupe Tataman et Solidarité Palestine, Solidarité pour les droits humains en Palestine, les étudiants de McGill et Concordia ont aussi été très actifs. Ils ont réagi de façon immédiate et ont fait plusieurs manifestations aussi pour protester contre ce qui se passe là-bas. Alors, c'est parmi les activités, mais il y a aussi ça, c'est de l'ordre de la mobilisation, si on veut, de la manifestation. Il y en a une qui s'en vient organisée par la coalition, qui est le 30 mars. Le 30 mars, c'est une journée symbolique pour les Palestiniens parce que ça commémore la journée de la Terre qui a été marquée en 1973, si ma mémoire est bonne, ou 76. Les chiffres de mémoire précis, mais de l'assassinat et par l'armée salvadorienne, par l'armée israélienne, de personnes qui protestaient contre le fait qu'on expropriait leurs terres. Alors, devant la résistance que ces personnes-là opposaient à l'armée israélienne, ben, ils se sont fait tuer, ils se sont fait blesser, ils se sont fait mettre en prison. Et depuis ce temps-là, c'est devenu une journée symbolique à travers le monde. Et on va organiser justement une action symbolique devant le consulat israélien. On va planter des oliviers pour comme geste de résistance contre l'occupation, la colonisation, contre l'apartheid israélien. Il y a aussi, parmi les activités, le travail présentement à la possibilité d'organiser une délégation pour aller et en Cisjordanie et à Gaza. Il y a aussi tout le travail sur le boycott, la campagne de boycott des investissements et sanctions qui a pris sorte de momentum encore plus intensif suite aux événements de Gaza. Alors, il y a des comités de travail qui s'affairent à travailler sur le boycott académique d'un côté et sur le boycott de produits israéliens de l'autre. Puis il y a aussi du travail qui se fait sur l'accord Québec-Israël. Vous savez que le gouvernement québécois a un accord depuis longtemps, depuis 1997 avec Israël, qui a encore renouvelé en grande pompe à l'Assemblée nationale, réaffirmé, c'est-à-dire l'année dernière. Alors, on va demander le gel de cet accord-là, tant que Israël ne respecte pas le droit international. Il y a aussi une autre équipe qui travaille sur le Fonds national juif, qui est un fonds qui jouit d'un statut d'organisme de charité. Et ce fonds-là sert en fait à acheter des terres, si on veut, en Palestine pour juifs exclusivement. On veut faire cesser ce statut de charité à cet organisme-là.
Et puis en parlant justement de l'accord économique.
Ah bon, excusez-moi.
En parlant justement de l'accord économique dont vous venez juste de parler, il y a eu une occupation par un groupe du consulat israélien pour s'opposer à cet accord économique-là. Or,
pas du consulat israélien, du bureau de M. Bachand.
Ah, OK. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de comment est-ce que le Québec soutient l'État d'Israël par son économie? Je sais que, en fait, si je ne me trompe pas, les États-Unis soutiennent beaucoup militairement Israël. Comment est-ce que le Québec soutient, comment est-ce que le Parlement québécois soutient par cet accord-là l'État d'Israël?
Oui. Mais en fait, c'est sûr, les États-Unis soutiennent à la fois militairement, économiquement, et diplomatiquement Israël depuis des décennies est une façon complètement disproportionnée, démesurée et inconditionnelle. Ça, ça on le sait.
Hein. Barack Obama aussi a affirmé sa solidarité.
C'est un accord qui est davantage, je dirais, économique, culturel, éducatif et qui concerne un peu plusieurs aspects justement de ce genre d'activité-là. Donc il y a des échanges, il y a des occasions d'affaires dans le fond en Israël et c'est un accord qui facilite les liens entre des investisseurs québécois, du monde des affaires d'Israël et qui peut justement bénéficier de l'appui de différentes personnes au sein du gouvernement québécois. Alors présentement, on est en train de regarder cet accord-là de façon beaucoup plus proche, de l'étudier. C'est pas quelque chose avec lequel on était très familier, mais à partir du moment où on aura une analyse plus approfondie de cet accord-là, ben on va passer à l'action d'une certaine façon.
D'accord. Et puis, est-ce que vous pouvez aussi nous décrire comment est-ce que le peuple palestinien, après l'opération d'Israël de cet hiver, comment est-ce qu'il s'en sort? Je pense que l'État d'Israël avait coupé de l'aide humanitaire qui tentait d'aller soutenir le peuple palestinien. Quel est l'état de la population palestinienne en ce moment?
À Gaza en particulier?
Oui.
Il y a un membre de la Coalition pour la justice et paix en Palestine, M. Eyal Lotoyev, qui est justement revenu dimanche après-midi d'un séjour à Gaza. Il y allait au nom de la Coalition et supporté aussi par plusieurs groupes de solidarité. Ça a été immensément difficile d'entrer à Gaza. Et il n'est pas le seul, non? Les Israéliens et les Égyptiens contrôlent de façon absolue les entrées à Gaza. Et ça, c'est une aberration totale. C'est un peu comme si il n'y avait pas moyen de savoir ce qui se passe là, pas moyen d'entrer en relation avec les gens sous prétexte que Israël ne veut absolument pas qu'aucune aide ne parvienne dans les mains du Hamas, qui reste quand même le gouvernement élu de cette population-là. Ça aussi, c'est une aberration. C'est un groupe terroriste, un groupe de résistance, comme tous les peuples opprimés ont des groupes de résistance au sein de leur population. Le Hamas en fait partie. Et alors, présentement, c'est très, très, très difficile. Donc, Iyad a finalement pu entrer en bénéficiant, si on veut, du fait qu'une délégation des États-Unis, Code Pink, qui est une délégation de féministes, de femmes principalement, à cause du 8 mars, dans le fond, a pu pénétrer dans Gaza. Ils étaient une soixantaine, et dont quelques hommes aussi, et M. Lotoyev a pu entrer avec eux. Il est resté 5 jours, et la situation, mais évidemment, ce qu'il nous décrivait dimanche après-midi, c'est une situation de dévastation. Tout est détruit, les gens vivent dans des tentes, vivent dans des tentes. En même temps, il nous disait à quel point la volonté des gens est déterminée. Ils veulent reconstruire absolument. Ils exigent de la communauté internationale que ce qu'ils vont reconstruire ne sera pas redétruit immédiatement par Israël. Donc, il y a une volonté très forte de survie. Je pense qu'ils sont dans la survie à l'heure actuelle. Et ce que disait Yab aussi, un sentiment très fort d'avoir été abandonné par la communauté internationale. Donc, ils sont à la fois dans la survie, et quand on est dans la survie, il faut résister. Faut dire, on va pas mourir, on va continuer à vivre, on va reconstruire, on va s'organiser, on va s'épauler, etc. Et cette espèce de sentiment terrible que la communauté internationale, on regarde ça assis dans nos salons, sans bouger, les gens ont pratiquement, gouvernements occidentaux, non seulement ils n'ont rien fait, mais ils ont appuyé Israël. Alors là, il y a une injustice terrible, situation carrément inacceptable. Et là...
Il faut vraiment agir pour changer les choses. Madame Guy, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous donner quelques sources pour rester au courant des activités de la Coalition pour la paix et la justice en Palestine? Par la suite, on va aller faire... on va devoir se quitter.
Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question.
Est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, nous donner des sources, comme par exemple, est-ce que vous avez un site Internet à nous proposer? Est-ce que vous avez un journal à laquelle vous, auquel vous pourriez nous référer?
Il n'y a pas de journal, mais il y a un site de la coalition, cjpp.org.
D'accord. Donc, on va se tenir au courant des activités de la Coalition pour la paix et la justice en Palestine à cette adresse-là. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'entrevue sur la solidarité au Québec avec la bande de Gaza. On vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci infiniment.
Bonne fin de journée. Au revoir.
Pour notre part, on va aller continuer en musique, puis on va faire la pause commerciale. À tout de suite.